Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Ainsi, nous savons qu'il n'y a pas à attendre de l'État qu'il protège ses citoyennes, ni du ministère de la Culture qu'il se donne les moyens de l'efficacité en matière d'égalité et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il nous revient de l'exiger. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Rose Lamy et Elvire Duvel-Charles à l'occasion de la parution du livre collectif « Moi aussi, MeToo au-delà du hashtag » aux éditions JC Lattès. C'est parti. Bonsoir Elvire.
Bonsoir Soazic.
Bonsoir Rose.
Bonsoir.
« Moi aussi, MeToo au-delà du hashtag », un ouvrage collectif dont tu as eu la direction, Rose. Mm-hmm. C'est toujours assez impressionnant de lire sous la direction. Ouais. Comment tu te situes, toi, face à ce terme-là de la direction ?
Moi, j'aime bien, voilà. Et ça représente assez l'exercice qui est de réfléchir au thème, réfléchir aux intervenantes possibles, discuter avec elles des sujets, et après revoir les textes ou pas, changer d'orientation ou pas. Et donc, ça correspond bien à ce que c'est. Après, il n'y avait pas du tout de dimension hiérarchique ou autoritaire.
Tu voyais venir en fait une sorte d'anniversaire de MeToo, les 5 ans, et tu t'es lancée en fait dans ce projet-là, ou c'était plutôt le bon moment pour parler de MeToo ?
Non, j'ai vu l'anniversaire arriver, parce qu'à l'époque, je travaillais à la Déferlante d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et elles sont toujours un peu dans le futur, et elles étaient déjà en train de parler de MeToo presque un an avant, et j'avais l'intuition que le traitement médiatique qu'on allait faire des 5 ans de MeToo allait pas me plaire 100%. Et que du coup, je me suis dit, bah, c'est bien, on est dans le timing pour essayer de proposer une version différente, en tout cas notre version, avec des sujets dont on va sûrement pas parler dans les médias mainstream, et avec des personnes qui ont porté, à mon sens, et il y en aurait plein d'autres à mettre en avant, mais qui ont été pionnières sur certains sujets et qui ont participé au MeToo concrètement, avec les pages de vulgarisation, avec des textes, avec des articles, avec des stories loose sur le fémonationalisme. Moi, je la suis depuis assez longtemps, et chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité qui concerne cette question, j'attends religieusement sa story ou son post pour me dire « Ok, j'attendais son décryptage ». Donc c'était un peu dans cette idée-là de proposer notre version à l'anniversaire. J'avais peur qu'on dise que c'était une vague et que ça avait tout changé. Et qu'en plus, elle était derrière nous. Donc en fait, on s'est dit ben, « C'est pas une vague, c'est plutôt ce qu'Ren Pratt appelle une guérilla ». Ça n'a pas tout emporté sur son passage, c'est le fruit de travail de tonnes de militants et militantes anonymes. Et ce n'est pas derrière nous, parce qu'on n'est qu'au tout début.
La sélection des personnes qui accompagnent ce livre, elle s'est faite comment ? J'imagine qu'en effet, comme tu le dis, tu as un radar aussi sur les réseaux, mais ça a dû quand même te demander de faire des choix.
Ouais, mais il y avait plein de facteurs. Déjà, c'était obligatoirement limité parce que par rapport à l'enveloppe et la manière dont je voulais que les gens soient payés, ça voulait dire qu'il n'y en aurait pas 50, ni même 25, 15. Donc déjà, on était en dessous de 10. Et après, ouais, c'est lié à ce que je consomme moi, enfin à ce que je lis, à ce que j'aime bien et au sujet que je voulais aborder. Donc il y avait quand même 3 trucs qui me semblaient importants. L'avant MeToo, enfin de sortir de l'idée qu'il était apparu tout seul en 2017 et que c'était le fruit notamment du travail de Tarana Burke. Le fait que ça s'inscrivait dans une autre vague. Je voulais parler du féminisme transphobe et de fémonationalisme. Et puis aussi, moi après, c'est mon obsession un peu, mais des milieux culturels, artistiques, donc ça c'était Ren Pratt. Et puis aussi, ben, forcément, MeToo c'est les violences sexuelles, donc voilà, il fallait trouver aussi une manière d'accès avec ça. Donc c'était un peu ces 3 idées-là au départ, et après, ben, ça s'est fait au fil des discussions, et des gens qui n'étaient pas dispo, auxquels j'ai pensé après. Donc ouais, tout un... C'est très pragmatique, hein, même si on a des idées au départ, après ça se fait en fonction des envies et des dispos. Et voilà, je suis très contente de cette sélection.
Nous avons Angèle Rokaya Diallo, Elvire Duvel-Charles, ici présente, Camille Froide-Vaumétry, Rose Lamy. Ensuite, nous avons Lexi, Louze, Christelle Murula et Ren Pratt. Elvire qui est avec nous. Comment s'est passée votre collaboration ? Parce que de ce fait, on te connaît par la Crite Révolution, par Féminisme et Réseaux Sociaux chez Hors d'Atteinte. Comment vous vous êtes dit que ton axe allait être sur le sujet de l'article que tu as proposé ?
J'ai l'impression que quand tu m'as appelée, donc c'était vraiment au tout début de cette idée de projet, et il me semble que tu m'avais dit « Oui, alors on va parler de ça avec telle personne, de ça avec telle personne, de ça. » Mais je me suis dit que peut-être il faudrait que tu parles des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que MeToo, c'est quand même une guérilla qui s'est menée, alors qui ne se mène pas que sur les réseaux sociaux, mais en fait, ça a flambé grâce à Twitter. Et du coup, je pense que c'était un peu ce que tu attendais de moi. Et je ne sais plus, au début, tu m'avais proposé une direction. J'ai oublié ce que c'était.
Pour vous dire comment j'ai dirigé.
Non, parce que c'était vraiment une idée de base. Et je me souviens que je t'avais rappelé quelques temps plus tard en disant « Non, en fait, j'ai envie de parler de... En fait, j'ai envie de répondre à l'argument de « Il ne faut pas que ça devienne le tribunal des réseaux sociaux. » Et du coup, je pense qu'à la base, on avait peut-être un texte qui était plus sur la puissance des réseaux sociaux. Et où ça s'est un peu transformé, où j'ai l'impression qu'au final, c'est plus un texte sur la justice et sur à quoi sert la justice et sur le fait qu'au final, la justice est là pour punir. Alors déjà, elle punit très peu, puisque c'est que 1% des viols qui sont condamnés.
Je crois que c'est 0,6.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je me disais, c'est qu'au final, personne ne pose la question aux victimes de qu'est-ce qu'elles aimeraient. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui pourrait les réparer ? Comment est-ce qu'on peut les aider ? Et ça, c'est en fait, les victimes sont complètement mises à côté. Et dans la procédure pénale qui est extrêmement lourde, extrêmement douloureuse et extrêmement traumatique, enfin traumatisante, et à la fois dans, au final, ce qui se passe, à savoir quelque chose qui ne te répare pas forcément, parce que quand bien même la personne qui t'a violée se retrouve en prison, ce n'est pas quelque chose qui te répare. Et donc, du coup, moi, mon propos, c'est un peu de dire, en fait, si ça peut nous réparer d'en parler sur les réseaux sociaux et de dénoncer son agresseur, je vois pas en quoi est-ce que... Enfin, si on veut arrêter le tribunal des réseaux sociaux, réparer le tribunal des hommes.
Ton article, il est vraiment passionnant. Cette question-là de la justice sociale, parce que voilà, MeToo, dans l'introduction, t'en parles comme ça, comme d'un mouvement en fait, de justice sociale. C'est de bien montrer en fait, qu'on est face à deux types de justice. La justice qui, au final, invisibilise les violences sexistes et sexuelles, et une justice qui serait faite un peu maison. Toi qui as écrit ce papier, tu vois comment en fait, l'évolution des réflexions autour de ce sujet ? T'as l'impression qu'il y a quand même une prise en main et que ça va seulement arriver ?
Je pense qu'on est au tout début, mais je pense que c'est des questionnements qui se posent énormément. Enfin, en tout cas, je le vois dans les cercles féministes, on en discute beaucoup. Enfin, on commence à en discuter beaucoup, on commence à entendre parler de féminisme anticarcéral qui, moi, je me souviens, quand j'avais écouté l'épisode de La Poudre avec Gwenola Ricordo, je disais « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette folle ?» en fait, je comprenais vraiment pas. Et où maintenant, c'est ça revient, en fait, ça re-résonne en moi au fur et à mesure que je me pose des questions. J'ai envie de retourner à son travail, voir... Parce que moi, je trouvais ça extrêmement violent, en fait, de dire que des violeurs ne devraient pas aller en prison. Et plus ça va, plus ça avance, plus... Enfin, j'ai fait des entretiens aussi pour ce papier, mais qui me servait aussi à moi, un autre travail personnel que j'ai à côté. Et où, du coup, j'ai interrogé beaucoup de victimes sur cette question-là de... qu'est-ce que tu aimerais si tu avais une baguette magique et que tu pouvais décider du sort de la personne qui t'a agressée ou violée ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Et en fait, j'étais surprise, et pas tant que ça au final, de voir que la question de la prison se posait souvent pas trop. En fait, cette réponse-là arrivait pas souvent. Souvent, ce qu'on avait, c'était « j'aimerais m'assurer qu'il le refasse plus jamais ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à plus personne. « J'aimerais qu'il comprenne ce qu'il a fait ». J'aimerais, en fait, il y a plein, j'aimerais comprendre pourquoi il l'a fait. Et en fait, tout ça, c'est des pistes qui sont là et on se dit, en fait, on n'a jamais exploré ça. C'est-à-dire, en fait, il y a très peu, il y a le livre de Lorraine Descartes qui parle de ça, qui va sortir, là, je crois, au mois de janvier ou de février, qui est hyper intéressant. Elle a enquêté très longtemps sur les féminicides, c'est une des pionnières sur ces questions-là. Je vous invite à lire ses enquêtes, notamment dans Mediapart. Et elle, par exemple, elle a été... dans un centre de thérapie pour les auteurs de violences. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, ça marche. Donc en fait, il y a très peu de centres, et du coup, c'est très peu connu, etc. Mais en fait, il y a réellement des agresseurs qui se remettent en question, qui se rendent compte de ce qu'ils ont fait, enfin qui arrivent à tricoter. Ça ne veut pas dire que ça marche sur tout le monde. Et ça ne veut pas dire que tous les thérapeutes ont aussi ce don-là d'arriver à amener ça, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a des solutions à aller chercher aussi de ce côté-là. Et je pense que MeToo, ça va forcément nous amener à ça. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on a, on a mis 5 ans à essayer de bien, j'allais dire, redéfinir, pas dans le sens redéfinir les contours, mais de se rappeler de, en fait, quelles sont les règles du consentement, qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que c'est qu'un viol. Quand on a baigné dans la culture du viol, ça prend bien 5 ans, je pense, à conscientiser. Et en fait, on n'y est toujours pas. Hein. Enfin, moi, je le vois dans Hotline, qui est un podcast, pour le coup, très léger, une radio libre, où on parle de sexe entre filles. Je vois bien qu'en fait... Par exemple, il y a des personnes qui ne conscientisent pas le fait qu'un rapport sexuel, quand quelqu'un dort, c'est un viol. Au sein d'un couple, etc. En fait, il y a toujours cette idée que s'il y a de l'amour, ce n'est pas un viol, etc. Et donc, on a mis 5 ans à parler de ça, c'est-à-dire de, OK, le consentement, en gros, le consentement et le non-consentement. Et forcément, au bout d'un moment, le constat va être qu'une fois qu'on s'est toutes déclarées de dire « moi aussi, moi aussi, moi aussi », on va forcément... commencer à se poser la question de comment est-ce qu'on se répare. Comment est-ce qu'on se répare nous et comment est-ce qu'on se répare les auteurs de violences. Et je pense que c'est une vraie question. Mais en fait, je pense qu'il y a très peu de recherches, en tout cas en France, sur ces questions-là. Et donc, il faut aussi laisser le temps aux chercheurs et aux chercheuses de faire leur travail. Mais je sais que, par exemple, il me semble que c'est en Suisse où il y a beaucoup plus d'évolution. Enfin, il y a eu beaucoup plus de recherches à ce sujet-là. Il y a une thèse qui est sortie il n'y a pas longtemps qu'il faut que je lise parce que c'est hyper intéressant, mais du coup, je pense que c'est des questions qu'on doit vraiment commencer à se poser, et je pense aussi qu'on doit accepter le fait qu'on n'aura pas toutes les mêmes réponses. C'est-à-dire, en fait, que chaque victime est unique, et que pour certaines, la solution va être d'enfouir complètement ça, pour d'autres, ça va être de pardonner, pour d'autres, ça va être de voir le mec en prison, et qu'en fait, il faut aussi trouver un moyen de s'adapter et de sortir de cette idée-là que c'est forcément punitif, mais aussi de se dire, en fait, chacune et chacun peut trouver ou demander ses propres solutions. Et je pense déjà que de donner le choix entre plusieurs solutions, ça serait un début de réparation. C'est-à-dire pour une fois d'écouter les victimes et d'essayer de se mettre à leur disposition en disant « Ok, comment on peut vous aider ?» Mais je me dis qu'il y a quand même des choses à résoudre. C'est-à-dire le fait que, en tant que victime, on doit continuer à, je sais pas, payer notre thérapie, à vivre nos traumatismes, etc. Pour le coup, même l'État ne nous aide pas là-dedans. Et pour moi, ça devrait être une chose. Alors oui, d'accord, peut-être ton violeur ne va pas être condamné ou il va avoir du sursis ou va avoir une peine minimale, mais qu'au moins, il y ait une prise en charge aussi de tous les soins que ça demande derrière de se reconstruire et de se réparer. Parce qu'au final, chacune bricole comme elle peut. On retrouve les inégalités sociales là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi cette question-là de qui peut se payer un psy, de qui peut se payer un massage pour essayer de se changer les idées, qui peut aller se payer des vacances, etc. Et du coup, on n'est pas tout égal face au traumatisme. Et ça, je pense que c'est un vrai questionnement qu'on doit avoir, et il faut qu'on commence à apporter des solutions qui soient concrètes et pas juste théoriques.
Peut-être qu'aussi pendant ces 5 ans, en fait, il y a eu une tendance à se dire qu'on était une sorte de féminisme, enfin de femmes qui représentaient des féminismes, et on était un peu toutes pareilles, en fait, et donc... spontanément, comme toujours dans les systèmes de domination, bah, des personnes blanches et privilégiées, donc qui en effet ont les moyens en fait de se soigner, même si, est-ce qu'on se soigne vraiment, je ne sais pas, mais en tout cas de tenter d'aller vers des réparations, mais que des personnes pauvres, ou à des carrefours d'oppression, etc., ne vont pas avoir en fait ce temps, cet argent, cette disponibilité-là en fait pour se soigner.
Et pas la même qualité d'écoute aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... et on l'a vu avec le podcast... De Axel Janikmé, que je vous invite à écouter, si vous en avez le courage, qui s'appelle Fille sur le canapé et qui parle justement de pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu les MeToo des Noirs, des filles noires, et qui a eu genre un écho médiatique vraiment très minime, et beaucoup de féministes n'ont pas entendu parler de ce podcast, alors qu'il est sorti quelques semaines avant le podcast, qui est aussi lui aussi très bon, de Charlotte Pudlowski, ou peut-être Une nuit, qui parle des mêmes questions d'inceste, etc., et qui, lui, a eu un écho médiatique fracassant. Et pourtant, je trouve qu'ils sont de qualité égale. Donc, en fait, c'est une vraie question aussi sur la qualité d'écoute qu'on va donner à certaines victimes et pas à d'autres.
De toute cette période de dire, de donner la parole aux victimes qui ne se font pas écouter par les personnes qu'on aimerait, en fait, dont on aimerait avoir l'attention, il se révèle d'inégalité, des re-systèmes de domination et d'oppression, des utilisations aussi des causes. L'article de Luce, il est incroyable. Ouais. Je pense que ça, j'avais besoin que quelqu'un, quelqu'une me parle en fait, de ça, tout comme en fait, j'avais besoin qu'on me parle de cette, cette thématique de la justice. Donc bravo, enfin vraiment, je me suis dit, mais en fait chacune a de quoi faire un livre en fait complet.
Bah, j'espère avec son que article. Ça va être le cas. Mais vraiment Luz, il faut la suivre et la lire, c'est vraiment. Tous les textes sont géniaux, mais je trouve que ce sujet du fémonationalisme, donc c'est l'instrumentalisation du féminisme pour alimenter le racisme voire le fascisme. C'est l'enjeu, c'est un des enjeux, parce qu'on ne peut pas hiérarchiser comme ça, mais c'est un des enjeux de ce qui se passe en France. C'est ce qu'on a vu. La Macronie, c'est le premier gouvernement après MeToo, et ils ont. Enfin, c'est ce qu'elle explique, ils ont organisé la lutte contre les violences sexistes et sexuelles prétendument avec le binôme Darmanin-Schiappa. Et on a tout de suite. Je suis toujours obligée d'en parler au moins une fois. Par exemple, pour prendre l'exemple du harcèlement sexuel, donc, qui est une réalité, le harcèlement de rue, comme on dit, ça a tout de suite été tourné dans le sens où c'était des personnes racisées dans l'espace public. Et en fait, ça leur sert un projet politique pour récupérer l'extrême droite. Et en fait, on a utilisé aussi MeToo pour... je pense que si... on n'est pas loin de l'état autoritaire, enfin bon, c'est en train de bien s'aggraver là. Si on en est là, c'est peut-être lié à MeToo. Et c'est pour ça que je voulais la faire écrire dessus, parce qu'elle parle du fémonationalisme dans son ensemble. Il y a des livres sur le fémonationalisme où on dit que c'est Marine Le Pen ou l'Italie, ou... donc jamais chez nous en général. Et là, je voulais vraiment que ce soit appliqué à MeToo, parce que j'avais l'intuition, puis elle en avait déjà parlé, tout, qu'il fallait l'appliquer à MeToo pour bien, bien comprendre ce qui était en train de se passer. Et c'est... Oui, c'est pour le corriger, en tout cas, il faut déjà en prendre conscience, et c'est... C'est pas facile de comprendre la manipulation des dominants, encore une fois, sur ce sujet-là. Et puis ça se transpose aussi avec le capitalisme, et là c'est le texte de Christelle Murula, où du coup on va associer MeToo et dérive capitaliste avec ça va servir à réexploiter des femmes précaires dans des entreprises féministes. Ça se reproduit sur la transphobie, qui sert aussi à un autre projet politique en ciblant des personnes déjà minorisées. Et donc tout ce mouvement est lié. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point c'est lié. En vrai, j'avais l'intuition pareille, mais en lisant les textes, je me suis dit, waouh, mais en fait, l'extrême droite et ce qui est en train de se passer, c'est en train de nous aspirer MeToo, en fait. Enfin, le lien entre MeToo, de toute façon, et l'extrême droite ou le fascisme, je ne sais pas comment encore l'appeler, mais c'est déjà dans la racine de MeToo, parce que ça pourrait être... Enfin, un des éléments déclencheurs, c'est l'élection de Trump. Donc, de toute façon, on a... Il y a un équilibre du... Il y a une guerre froide, je sais pas comment dire, un équilibre des terreurs entre les deux qui fait que les deux s'alimentent, et c'était intéressant de voir comment.
Oui, et puis de noter, en fait, tout de suite, dans ton intro, tu en parles, de dire qu'en fait, au final, la seule victoire de MeToo, c'est d'avoir réouvert, d'une certaine manière, l'écoute et l'empathie du grand public.
Qui est déjà une grande victoire.
Qui est déjà incroyable, je ne l'avais jamais pensé comme ça. En fait, je me disais souvent, et on a eu l'occasion d'en parler avec plusieurs autrices, de se dire, mais tous ces paroles, ces livres, ces témoignages, ces articles, ces prises de position, enfin, ces révélations, ces comptes Instagram, etc. En fait, ça fait beaucoup de voix, ça fait énormément de violence, mais face à ça, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, en fait, qui se met en place. Et donc, ça commence à faire une sorte de bruit, et c'est ce qu'on nous dit, d'ailleurs. C'est qu'il y a...
On fait trop de bruit, ouais.
C'est carrément quelque chose qu'on nous reproche, en fait. Il y a trop de choses, il y a trop de témoignages, etc. Sans pour autant que ça bouge des lignes. En fait, ouais. On se dit, mais... Ouais.
Et en même temps, tu vois, moi, je pense que ça... Justement, ce bruit, ce que ça change en premier lieu, c'est nous. C'est-à-dire, en fait, le fait... Alors, c'est intéressant, hein, parce que pour des personnes qui ont vécu des violences, c'est-à-dire la plupart des femmes... C'est à double tranchant, c'est-à-dire que pour certaines, MeToo, ça a été extrêmement violent parce que c'était pas du tout le moment pour elles d'entendre, enfin, ressasser. Et puis il y a aussi un aspect accablant où, en fait, de voir l'immensité du problème, parfois ça te tétanise encore plus. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a permis aussi à des personnes de parler. Moi, je sais que j'ai parlé de choses avec des amis, enfin, on se connaît depuis toujours et en fait, on n'avait jamais parlé de ça. Donc je pense que c'est aussi ça que ça nous apporte à nous, femmes et victimes, c'est le fait de se rendre compte qu'on n'est pas seule. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux et que c'est pas négligeable. Après, ça n'enlève pas le fait que la société reste patriarcale et qu'on continue à se foutre éperdument des personnes qui vivent des violences et on continue à proposer à Polanski d'être président des Césars. Sachez qu'il est en train de préparer un nouveau film. Donc voilà, ça continue. Et en même temps, je pense que c'est déjà une première étape que de se dire au moins on n'est plus seul. Les victimes ne sont plus seules et c'est déjà beaucoup. Et du coup, en effet, il faut embrayer au bout d'un moment.
Je pense que structurellement, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, dans les structures, dans...
En France.
En France, France, ça a rien changé. Mais après, c'est ce que je dis dans l'intro, ils ont serré la vis dès le lendemain sur les matinales de France Inter et de France Info, enfin de toutes les matinales en gros. C'était attention, ça va être la délation maintenant, on va vivre les heures sombres de l'histoire alors que le truc avait...
Arrêtez même... de violer.
Mais ils avaient mis tout, ils avaient même pas 24 heures que c'était déjà en boucle, en train de dire ah, c'est la délation, c'est horrible. Bon. Donc, ils ont serré la vis. La vague, moi, je ne l'ai pas senti passer ailleurs que dans les représentations culturelles et dans tout ce qui avait été déjà engagé sur les réseaux sociaux. Redéfinition des violences, des personnages, du récit. Moi, je pense que MeToo, c'est une révolution narrative, en fait. C'est qu'on a changé... Il y a eu un point de vue dominant, des personnages écrits par le patriarcat... un profil de victime décrit par eux, qui étaient les violeurs, c'est eux qui l'ont décidé, qui l'ont écrit, et puis on est arrivé en masse en disant bah, excusez-moi, mais en fait ce profil de violeur dans les parkings, racisés, musulmans, migrants, pauvres, alcooliques, bon bref, vous voyez l'idée. En fait, c'est pas vraiment ça, parce que regardez, en fait, c'est DSK, c'est Kanta, c'est
PPDA.
On a fait la démonstration que bon, c'est en fait tout le monde, c'est le bon père de famille qu'on nous a présenté comme n'étant jamais l'homme violent. Donc on a fait tout ce travail de redéfinition. Dans les représentations, ça avance, ça se mesure dans la société. On n'est plus que dans le... entre nous, on arrive à faire du lobbying pour que... Au moins, il y a un débat qui soit enclenché dans les médias. Et puis, en fait, c'est ce qui s'est passé en France. Tous les secteurs sont montés au créneau individuellement. Et c'est tout cet empilement de hashtags qui est une spécificité française, qui vient du fait qu'il n'y a pas eu de changement structurel et qu'un an, deux ans, trois ans après, les gens se sont dit bah, « En fait, il ne s'est rien passé, donc on y va ». Et donc, ça repose, du coup, sur des initiatives individuelles. Et donc, ça pose la question du coût moral, financier, des psys, acupuncteurs, EMDR, hein, je parle de ma vie, avocats, tout ça, parce que ça... Donc, ça a un vrai coût. Et puis, de combien de temps on va tenir comme ça? Mais ça a aussi un bon côté. Mais ça, je m'en suis rendu compte un peu après. En parlant avec Mathilde Vio, c'était qu'on était organisés en silos et en cellules, un peu donc, comme une guérilla. Mm-hmm. Et que si on en ferme un, il y en a quand même encore des centaines en activité et que ça va être quand même très compliqué pour eux d'arrêter le truc. Et la preuve en est que là, sur la BD, l'organisation a été... Enfin, l'organisation des militantes et des féministes, en trois jours, on l'a fait sortir, le truc. Donc, avec tribunes, groupes souterrains, postes ciblés, lobbying avec les financeurs. Enfin, c'était vraiment du beau travail.
Mais cette année, j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu plus remarqué. C'est que comme si, en fait, pendant 5 ans, on avait infusé en intimité. Enfin, comme tu disais, on s'est vu, on s'est cru, on a fait collective, on a vraiment, voilà. Et que petit à petit, eh ben en fait, ça, vraiment, ce truc de ça s'est propagé à différents niveaux des structures, mais toujours en dehors des grosses institutions. Hein. Toujours, c'est nous, à notre endroit, à notre niveau, on va dire. Mmh. Et je remarque que, par exemple, ben voilà, des métiers entiers se font former sur des, comment en fait, échapper au harcèlement au travail, donc des groupes de femmes hein, qui sont comment on parle à ses dirigeants, comment on se fait respecter. Des fois, on peut se sentir un petit peu impuissante de ce fait, de se dire, oui, ça bouge, mais toutes les personnes décisionnaires, en fait, elles se moquent de nous. Ouais. Et là, typiquement, je reprends l'actualité de cette semaine, je pense que c'est important de le lier à MeToo, mais quand Darmanin est en passage à Nice, et qu'une la librairie féministe se fait bâcher sa vitrine où dedans il y a l'impunité d'Hélène Devin qui parle...
est de la censure d'État, hein, ça.
C'est ça, non mais c'est ça. Et ça c'était il y a 10 jours, enfin il y a une semaine. En fait, on n'est pas en train de parler d'il y a 5 ans.
Ouais.
Donc quand un ministre, que ce soit lui ou pas le demandeur de cette action, mais en tout cas il y a une mairie qui a fait poser une bâche sur une vitrine juste parce qu'un texte révélant des choses était mis en avant, il y a quand même quelque chose d'assez violent.
Bah pour moi, c'est bon signe.
C'est bon signe ?
Parce que c'est signe que ça marche. Mm-hmm. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où tu deviens menaçante, c'est signe que ça marche. Enfin, c'est un peu ce que raconte Suzanne Faludi dans Backlash. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où les puissants se mettent à essayer de renverser la narration ou du moins de l'effacer, c'est qu'on gagne du terrain. Et ce qu'elle explique très bien, c'est à quel point ça arrive toujours au moment où tu t'apprêtes à avoir des acquis. Donc pour moi, c'est le moment justement de dire on lâche pas et on mange des chocapics. Est-ce que c'est une mauvaise métaphore pour dire qu'il faut reprendre des forces? Peut-être que les chocapics, c'est pas bon pour vous. Mais en tout cas, c'est le moment de reprendre des forces. Un petit repos de la guerrière et on y retourne en fait. Pour moi, c'est extrêmement bon signe en fait, parce que ça montre à quel point, je veux dire, t'imagines la logistique qu'il faut pour se dire, ok, on va aller chercher des bâches, on va mettre un échafaudage.
Puis c'est 15 policiers hein, qui sont présents.
Voilà, en fait, c'est quand même un effort énorme déployé pour enlever un collage sur une vitrine. Et pour moi, c'est extrêmement bon signe. En tout cas, de mon expérience d'activiste, c'est bon signe. Quand tu fais une action et que tu te fais pas arrêter et qu'il n'y a pas de retombée et que... Non. C'est que t'es encore trop petit. T'es encore trop... Voilà. Ta voix ne porte pas assez loin. À partir du moment où t'as les flics qui essayent soit de t'arrêter... Enfin, ça arrive, tu vois... J'ai des souvenirs comme ça d'action féminine où les flics qui t'attendent, enfin, ils savent que tu vas arriver, ils essayent de t'empêcher en amont même de l'action, ou qui vont essayer de te cacher, de te mettre des manteaux sur tes slogans, etc. Ça, c'est bon signe. Pour moi, c'est signe que tu gagnes. C'est comme la censure. Enfin, nous, c'est ce qu'on avait eu avec Sarah quand on s'était fait supprimer notre... On avait fait une parodie d'un clip de Relsan qui s'appelait Saint-Valentin. On disait « Suce mon clit pour la Saint-Valentin » au lieu de « Suce ma bite pour la Saint-Valentin ». YouTube nous l'a supprimé, mais en fait, du coup, derrière... On a eu 2 fois plus d'articles sur le clip, etc. Et du coup, il a retourné encore plus. Donc en fait, c'est signe que tu gagnes.
On n'a pas appelé ça censure, alors que c'était de la censure d'État dans la définition même du mot. Et quand on demande un débat sur l'art et la place de l'art, qui est la chasse gardée des dominants, eux nous répondent censure. Et là, ça fait « c'est Charlie, c'est compagnie ». Et c'était la même semaine. Donc là, c'est épuisant, j'en peux plus, mais c'est quand même... En ce moment, il se passe un truc, il faut s'en rendre compte, il faut le mesurer. L'affaire Quatennens, c'est sorti sur les réseaux sociaux. Il a été obligé de faire un communiqué. Mélenchon l'a défendu, ils s'en sont pris. Mais plein la gueule. C'était quand même assez jouissif de le voir sur Twitter. Ça a ouvert une enquête... un procureur s'est autosaisi, je crois, par rapport à la déclaration. Ça se finit en procédure et 4 mois de prison ferme pour des gifs qui ont été enfin... sursis, pardon. Symboliquement, c'est sorti du bois. Je pense que c'est encore l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles qui a sorti ça. Et ça finit par... Donc ils vont le garder, voilà, il n'y a pas de suspension et tout ça est discutable, mais genre symboliquement pour l'opinion publique, on a dit bah, en fait une gifle, ça va être de la prison avec sursis maintenant. Et il n'y a pas d'histoire de contexte de séparation comme nous a sorti Mélenchon, il n'y a pas d'admiration à avoir pour quelqu'un qui a commis un délit, même si c'est notre pote, la justice a dit bah, ça, prison avec sursis, et ben c'est hyper fort aussi. Et cette semaine, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Et donc, voilà, un peu d'espoir, même si on est très fatigué. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a ça bouge, là, effectivement, comme tu disais. Il y a eu un temps de sidération, peut-être, et de construction, et que là...
Oui, et de réflexion aussi. Enfin, ouais. De, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Enfin, quand on parle de violence sexuelle, on parle quand même de quelque chose... de structurel qui est presque dans notre ADN, tellement ça fait des siècles et des siècles qu'elles sont là et qu'elles sont normalisées. Donc je pense que ça demande un temps de réflexion, de compréhension de tous les tenants et aboutissants. Et là, ça y est, on arrive au stade où on s'organise de manière plus efficace et où aussi on est plus nombreuses et nombreux dans nos rangs et on a peut-être une société qui est plus prête à entendre ce qu'ils disent, c'est-à-dire en fait des choses qui pouvaient être inaudibles. Moi, je rappelle toujours, en 2012, quand j'étais entrée dans Femen, je me souviens que la question des journalistes qui revenait le plus souvent, c'était « On comprend les Femen en Ukraine, mais est-ce qu'en France, on a besoin de féminisme aujourd'hui ?» Mais des journalistes hyper sérieux. Je vais pas lancer des noms, mais des titres, mais des journalistes de gauche, de grands journaux quotidiens, etc. Et donc, du coup... je pense que c'est une question qu'on n'oserait pas, enfin si peut-être Valeurs Actuelles pourrait poser cette question aujourd'hui, mais du coup je pense qu'il y a vraiment une écoute qui est plus, qui est, voilà, où en fait on est en train de prendre conscience, où je me souviens à l'époque il y avait aussi ce truc-là de se moquer, le féminisme, c'était au moment où Oser le Féminisme avait demandé à ce que la case Mademoiselle sorte des formulaires, donc il y avait aussi un espèce de truc de genre on se fout de la gueule de « Ah mais voilà, il y a des femmes en Afghanistan qui meurent » et qui sont obligés d'être en burqa, et vous êtes en train de pinailler pour une histoire de Mademoiselle. Et en fait, j'ai l'impression que plus ça va, plus on a commencé à détricoter plein de choses. Et donc, je pense qu'on est dans un moment où on est prêt et prête. Et c'est juste la question de comment on s'organise, comment on continue à s'organiser, comment on fait pour pas s'entretuer aussi dans des guerres intestines qui font que j'ai l'impression qu'à chaque fois... qu'un mouvement politique commence à prendre de l'élan, il finit par s'autodétruire de lui-même. Hein. Pas besoin d'aller juste chez les féministes, il suffit de regarder l'état de la gauche aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment ce vrai questionnement-là de se dire, OK, comment est-ce qu'on continue à garder cette puissance de frappe qui peut, pour le coup, je pense, s'évaporer de notre propre... Enfin, de notre propre responsabilité. Enfin, là, je suis en train de faire la promo de mon livre Féminisme et réseaux sociaux, mais je pense que c'est vraiment un questionnement essentiel aussi à avoir, de dire comment on continue à être organisé et comment est-ce qu'on continue à mettre la pression. Et du coup, en effet, c'est pour ça que je trouve ça essentiel, les questions de fémonationalisme, etc., parce que c'est aussi des premiers vers dans la pomme. Et du coup, je pense qu'il faut... Après, couper c'est tout de suite la pomme pour pas que ça commence à gangréner, tu vois, tout le milieu.
C'est toujours l'histoire de définir le groupe qui est jamais défini, et donc les dominants sociaux, c'est un peu toujours ça. Enfin, en tout cas, ils définissent beaucoup les choses et nous, enfin, et eux ne se définissent jamais. Donc nous, on a tout ce travail de définir ce qu'ils font, leur discours, qui ils sont, et donc on est beaucoup là-dedans. Mais moi, cette semaine, j'ai pris conscience d'un truc sur l'affaire. Vraiment, je suis un peu obsessionnelle sur encore Angoulême. Et parce qu'ils nous rabâchent liberté d'expression, Charlie et compagnie, des concepts un peu d'autorité et sacré et qui ont toujours marché sur moi. Comme on me disait pour Quanta, oui, mais faut lui laisser se réhabiliter. Je fais, ah bah ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Présomption d'innocence, pareil, j'ai fait, bah oui, on va pas non plus mettre des gens en prison sans procès. Donc en fait, dans un premier temps, j'ai adhéré à tous ces trucs-là d'autorité sans y réfléchir, parce que c'est ce qu'on m'avait expliqué. Et puis si on commence à y réfléchir 5 minutes, c'est là qu'on voit qu'ils sont pas bien malins en face, parce que si on commence à y réfléchir, on se dit, bah non, bah, ça n'a rien à voir en fait. on n'est pas du coup un État en train de censurer des œuvres, on est des citoyens. En plus, c'est un festival qui est financé par les impôts et les collectivités, donc on a le droit d'en parler en plus. Et on s'interroge sur le fait d'avoir le droit ou non, sur le fait de pouvoir faire du mal à une communauté ou la... Enfin, lui manquer, enfin, atteindre à son honneur ou à son confort ou à son bien-être potentiel. Est-ce que ça justifie, est-ce que c'est justifié par l'art ? Pourquoi ? On est dans un débat comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, là, en voyant toutes les réactions, tout ce que les gens ont pu écrire dessus, qu'on l'avait retourné, ce concept, en fait. Et qu'on est théoriquement plus au point qu'eux, parce qu'eux, ils n'ont que des réponses d'autorité. Parce que sur Twitter, ça débattait hyper philo sur ces questions-là. Et puis, eux, ils avaient que... oui, mais bon, la liberté d'expression, il faut quand même la respecter. Bah ouais, mais on est beaucoup plus loin que ça, en fait. Et moi, je trouve ça hyper rassurant, c'est que ces 5 ans, on les a mis à profit aussi pour aiguiser les arguments et que même sur le discours, ils sont feignants parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller très loin. Ils ont juste à réciter des trucs qui ont toujours marché jusque-là et qui ne marchent plus, là. Et je crois que c'est ce qui a fait changer la décision du festival. Enfin, il y a plein de choses, mais je crois qu'ils ont dû entendre que peut-être que c'était pas, ça marchait plus cet argument d'autorité de liberté d'expression.
Tu parlais du ver dans la pomme. le livre, c'est ça aussi. C'est qu'on en parle de tout ça avant de leur trancher la tête. Ne parlons pas de violence, s'il vous plaît.
Non, on tranche pas la tête, on coupe la pomme.
Ah oui, on coupe la pomme, merci.
Tu laisses le ver en vie, tu le mets dans ton jardin, dans le compost.
On va arrêter cette image, mais oui. Parce que, en fait, moi, ce que j'entends, et en effet, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a aussi, dans ce mouvement féministe au pluriel, c'est qu'il y a des endroits qui sont plus OK, en fait, qui sont développés, la transphobie, le racisme qui continue. Et donc, il y a Rokhaya Diallo qui en parle, Lexi, évidemment, Luce, évidemment, Christelle Murula. Donc, ça fait quand même beaucoup, en fait, d'articles dans ce livre qui mettent un point d'attention à dire il y a quand même à l'intérieur de nos mouvements des petits... Alors tu parles de vers, mais c'est vraiment des branches, des groupes, des personnes qui réussissent à avoir énormément de visibilité, parfois beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, en fait, que les victimes, tout simplement. Hein. Et ça, moi, ça me perturbe énormément depuis le début parce que, quand on parle des TERF, c'est quand même... extrêmement violent, et on peut nous dire ça vient de nos mouvements, en fait.
Ouais.
Sauf que pas vraiment, parce que si on parle de féminisme, en fait, quand on parle vraiment de féminisme, ça ne fait pas partie, ce ne sont pas des féministes.
Mais en fait, si, ça vient de nos mouvements, parce que c'est quand même des personnes qui ne tenaient pas ce type de logique et de propos il y a quelques années, c'est-à-dire en fait, c'est des questions qui ne les... Donc pour moi, il y a vraiment une radicalisation et un glissement clairement vers l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on va retrouver des références même à l'extrême droite. Je voyais la dernière fois un tweet d'une de ces personnes qui parlait de Jean Mohamed, ce qui est genre la blague typique que tu trouves sur jeuxvideo.com, où en fait, c'est vraiment des références de faf comme nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme... mâle hétéro cis blanc, tu te dis ok, c'est ma fête féministe. En fait, il y a vraiment des références au livre de Julien Rochdy, qui est quand même l'ancien président des jeunesses pour le Front National. Et en fait, ça, on peut vraiment c'est un glissement qu'on voit progressivement. Et c'est pour ça que je dis si, c'est dans nos rangs, parce qu'en fait, c'est des personnes qui, il y a quelques années, n'avaient pas d'idéologie transphobe, même peut-être aussi parce qu'elle n'avait pas d'idéologie, qu'elle pensait pas à ces questions-là tout court, et que peut-être que c'est des questions qui sont arrivées avec le temps. Mais en tout cas, moi, j'observe quand même des personnes que j'ai pu suivre depuis un certain nombre d'années où il y a un vrai glissement idéologique raciste qui est en train de s'opérer, raciste et transphobe, mais où en fait c'est intéressant de voir que les deux vont ensemble en fait, et que c'est pas juste une question, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de se questionner sur l'identité de genre, parce que moi je comprends que ça soit une vraie question au début aussi. Moi, quand j'ai entendu parler des personnes trans, je me suis questionnée, mais du coup ça veut dire quoi être un homme, être une femme, qu'est-ce qui nous définit dans nos genres, est-ce qu'il n'y a que deux genres, est-ce qu'on doit abolir le genre, etc. Et c'est des questions qui sont tout à fait audibles, sauf que là, les mouvements dont on est en train de parler, c'est des mouvements de haine. Ce ne sont pas des questions, justement, il n'est pas question du genre, il est question vraiment d'un truc
très suprémaciste, en fait. On est dans une suprématie cis de... Il y a vraiment un truc de pureté, tu vois. Enfin, moi, je retrouve un peu les discours que tu peux... Alors, peut-être que c'est un peu exagéré, mais tu vois, le discours des Aryens de... voilà, la pureté de la race, la pureté du genre, la pureté des sexes. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Alors, je pense que c'est des choses qui se sont accélérées, notamment à cause des réseaux sociaux, c'est-à-dire, en fait, à cause de, peut-être, propos qui ont été tenus avec des biais transphobes, avec... pas une volonté de nuire aux personnes trans et que ça a déboulé sur des séries de call-out et de harcèlement qui font que, en fait, forcément, tu te radicalises dans ton truc à partir du moment où tu peux pas discuter. Donc, je pense que ça a été aggravé par la violence qui opère au sein des réseaux sociaux. Mais moi, je trouve ça très préoccupant parce que, honnêtement, pour avoir vraiment suivi le travail de certaines depuis longtemps et même avoir été proche de certaines de ces personnes, je vois vraiment une haine qui monte, qui monte, qui monte, et j'assiste... Enfin, c'est pour ça que je pense que si, c'est en fait, c'est des personnes qui étaient dans nos rangs.
Mais qui
l'étaient. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même chose que...
Que les antiféministes qui ont toujours été en dehors.
Voilà, que presque des personnes qui viennent de l'extrême droite, par exemple, je pense que c'est un peu le cas du groupe de Némésis, qui vient de l'extrême droite et où du coup t'as des filles au sein de l'extrême droite qui ont commencé à prendre conscience de certaines violences, etc., à se dire il faut défendre les femmes des hommes, et où du coup c'est un peu trop violent de se dire que ton pote peut être ton agresseur, ou l'agresseur de quelqu'un d'autre d'ailleurs, et où du coup la solution c'est de couper les politiques migratoires. Mais le fait que ces deux groupes là commencent à se rejoindre, moi je trouve ça extrêmement extrêmement préoccupant, et je pense que ça demande un vrai travail d'une part de pédagogie, un travail aussi de je sais pas comment dire, parce qu'en fait pour moi c'est exactement comme la manif pour tous, avec ce truc là de comment tu déconstruis l'idée de un papa une maman. En fait c'est dur d'expliquer à une personne qui est pas du tout politisée, enfin ça semble logique en fait de dire un enfant c'est un papa une maman. C'est compliqué de dire non, en fait, ça peut être autre chose qu'un papa et une maman. En fait, ça peut être des familles monoparentales. En fait, ça peut être deux mamans, deux papas. Et je pense que du coup, quand il est question d'identité de genre, c'est extrêmement difficile de simplifier les propos. Et du coup, forcément, les rhétoriques transphobes, alors heureusement, en fait, elles vont tellement loin dans leur haine et dans leur délire... paranoïaque et transphobe, qu'au bout d'un moment ça se voit, même si tu t'y connais pas trop. Mais en fait je trouve qu'on manque encore de ressources pédagogiques pour éduquer à ces questions là et quand je dis éduquer, je parle pas du réseau féministe, je parle vraiment de ma grand-mère, ma voisine, quoi, mon voisin aussi d'ailleurs. Et ça, je pense que une des réponses, c'est vraiment la réponse culturelle, c'est-à-dire en fait c'est de se dire ok, on va parler de ces sujets-là dans des films qui sont faits par des personnes concernées, avec des personnes concernées, et pas avec Catherine Froux qui joue un homme trans. Mais on va, voilà, on va avoir des animatrices trans de télé, des animateurs trans, un peu comme ce qui s'est passé avec l'homosexualité, où, je sais pas, en fait, plus ça allait, plus on a eu des icônes de pop qui étaient... gay ou lesbienne, et où du coup ça, c'est devenu quelque chose d'à peu près normal, ce qui n'enlève pas le fait qu'il y ait de l'homophobie et de la lesbophobie, mais en tout cas voilà, quand ma grand-mère elle voit la télé et qu'elle voit deux femmes qui s'embrassent, elle trouve pas ça pas naturel, enfin tu vois. Donc je pense qu'il y a un vrai rôle de la culture à jouer là-dedans aussi.
Ouais, et puis une vigilance, je trouve qu'il faut quand même faire attention, parce que ça a pris une... Enfin, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est parce qu'on est en train de parler de survie. En fait, Lexi, il en parle très bien, hein, quand même. On est face à des personnes, à des femmes qui sont en danger, qui sont précarisées, enfin, énormément précarisées. Et donc, se prendre ce cyberharcèlement, ce rejet... de personnes qui, à la base, même si c'est à la base d'il y a longtemps, 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 se disaient féministes, ça peut paraître quand même hyper violent.
Enfin, oui, et surtout qu'en fait, c'est une obsession. En fait, moi, ça me fait penser au débat sur le burkini. Mmh. C'est-à-dire, en fait, c'est une obsession qui concerne une, enfin, le nombre de personnes trans en France, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, mais c'est, on parle de quelques milliers de personnes, en fait. Donc, en fait, c'est rien. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, en fait, le fait de ne pas supporter l'existence de quelques milliers de personnes, c'est quand même... Et de faire une carrière politique entière basée sur la haine de ces personnes-là, pour moi, c'est exactement comme le burkini, je pense, potentiellement...
Non, mais c'est tout l'espace médiatique. Ouais. Et toi-même, spécialiste, grande spécialiste de l'espace médiatique, enfin, on entend parler que de ça. Et c'est comme tout. En fait, tu parles des représentations, évidemment, 1000% oui. Mais on va beaucoup plus faire attention à tout ce qui est violent, méchant. Enfin, toutes ces paroles-là, elles sont beaucoup plus écoutées que peut-être un film n'est vu ou... Je sais pas, qu'est-ce que tu penses là-dessus ?
Je sais pas sur ça. Mais déjà... Le texte de Lexi, il a été fait pendant l'histoire du planning familial, donc c'était hyper dur pour elle. Elle voulait plus le sortir, elle disait que ça allait entacher le livre et tout. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Vraiment, ne pas sous-estimer la violence et la destruction que ça implique. Bon, il s'avère qu'elles sont un peu neutralisées avant la sortie du livre, donc on n'a pas eu trop de retours, mais... Mais ça, première parenthèse. Et bah oui, je veux dire, ça va être le jeu médiatique, avec Bolloré et les algorithmes. De toute façon, c'est ces contenus violents, simplifiés, combinés au capitalisme, ramènent de l'argent. Enfin, oui, bien sûr que ces paroles sont portées plus facilement. Mais j'ai quand même... je suis très positive ce soir. J'ai quand même vachement d'espoir parce que le documentaire Petite Fille... Non, c'est un docu... Oui, c'est ça. Petite Fille qui est sorti. Il est passé sur France Télévisions. Et là, les réactions étaient géniales. Mmh. Et, parce que les gens ont... Enfin, c'était pas une approche théorique. C'était une approche... humaniste, voilà.
Empathique.
Moi, je pense que, par exemple, je prends souvent l'exemple de ma mère, elle l'a adoré. Et elle s'est pas posé la question de ce que c'était une femme cis, une femme trans. Elle a juste vu une petite fille qui était mal et des parents qui essayaient de trouver pourquoi et un système qui s'opposait à son bien-être et l'empathie, a pris le dessus. Et donc, je pense que ces films-là et le débat que ça suscite, c'est bien plus... porteur, ça devient une œuvre qui reste au monde, qui va être revue, on va se le passer sous le bras, on va se le conseiller. C'est bien plus important qu'une tribune transphobe dans Marianne, en fait. Qui lit Marianne ? Qui lit les médias ? En fait, des fois, même l'exercice médiatique... par exemple, sur Twitter, j'ai appris récemment qu'il n'y avait que 3% de la population française qui était sur Twitter. Donc aussi, on a un miroir déformant de ce qui est... connu, suivi du grand public. Je crois que le grand public n'est pas sur Twitter, mais par contre, il va regarder le téléfilm de France 2. Et donc, je me dis que là, il y a aussi un truc à jouer sur les œuvres de fiction et sur les productions culturelles à faire. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire.
On est quand même positif.
Ouais,
je suis un vrai bisou contre la transphobie, mais après, moi, je pense que c'est comme la discussion qu'on avait... sur le backlash, je pense qu'en fait, c'est signe que, en fait, on gagne du terrain.
Les lignes bougent.
Oui. Ouais.
Mais c'est vrai que, en fait, il faut aussi ne pas oublier qu'on est parfois en entre-soi.
Moi, je suis entre plusieurs mondes sociaux, donc c'est des fois très pénible et à la fois, c'est enrichissant parce que moi, je suis dans mes problématiques hyper spé avec les copines féministes, on parle de ça, on fait des tribunes et tout. Et après... je reparle de ma mère, mais je rentre dans ma famille, je me dis, ah oui, d'accord, l'opinion publique, c'est cool, ça avance, mais cette question-là, c'est complètement impensée ni questionnée. Donc moi, ça me fait relativiser et ça me calme aussi sur tous les débats militants. Donc, moi, maintenant, j'en parle à ma mère ou à mes sœurs des débats internes et quand elles comprennent rien, je fais, on s'en fout alors. Voilà. Donc moi, ça m'aide d'être entre ces deux mondes, vraiment. Là, l'opinion publique a admis le féminicide, les violences sexuelles, ça commence. Sur Vivès, elles étaient d'accord. Je me dis, ça, c'est intéressant. Après, les débats... il en faut. Enfin, je veux dire, il y a toujours une sorte d'avant-garde militante qui va théoriser et être à la pointe de la réflexion. Mais si on ne fait pas le mouvement vers le vrai monde, à quoi ça sert tout ça ? Parce qu'on peut vivre, on peut se faire... un village entre soi et on sera heureuse. Mmh. Mais moi, c'est pas trop mon objectif de penser qu'à ma gueule. Et,
non,
et donc,
oui,
de faire en plus, je vous dis, ça aide d'aller... Moi, je regardais beaucoup Plus belle la vie, maintenant c'est fini. Mais voir des personnes trans, jouer par des personnes trans, par exemple, regarder par des millions de personnes sur une télé française, et ben, je me dis, c'est cool. Et puis, voilà, traquer dans les œuvres culturelles, l'évolution aussi. C'était la nuit du 12 sur les féminicides. Deux punchlines que j'aurais jamais pensé être partagées dans un film. Si elle est morte, c'est parce que c'est une femme. Et si on n'a pas trouvé le tueur, c'est que ça pourrait être tous les hommes. Bah, moi, ça m'a fait chialer. Et j'ai invité plein de gens à aller voir ce film qui n'est pas, pas estampillé féministe. Et puis voilà, culturellement, ça rentre quand même, ces idées-là. Mais je crois qu'il y a un pourcentage très important de la population française qui ne saurait pas définir MeToo. Donc, c'est bien de faire des livres dessus. C'est bien de se poser des questions sur tous les angles morts, les dérives et les choses à corriger. Mais il y a aussi un boulot de ben, ces gens-là, il faut aller les trouver. Et donc, c'est des gens qui ne sont probablement pas sur Instagram, sur Twitter, qui mènent peut-être déjà des luttes syndicales, mais qu'on ne relaie jamais. Donc, ouais, il y a plein de choses concrètes à faire aussi, en même temps que s'interroger sur ça, qui sont peut-être plus efficaces. Sur un court terme, ouais.
Bon, bah, cette sixième année, elle va être au taquet. On n'aura pas, malheureusement, le temps de revenir sur ton article, puisque tu as parlé d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur.
Il faut l'acheter.
Il faut absolument l'acheter. Mais vraiment, vraiment, parce que je me souviens de t'avoir entendu dire que... Enfin, je me souviens du ton, en fait, de ton article. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ce n'est pas
c'est
un vrai sujet?
Le ton de la bagarre.
Et j'ai trouvé qu'il était vraiment très intéressant. Je laisse énormément de suspense parce que je pense qu'il est très important que les personnes les lisent.
C'est un des sujets préférés des abonnés de la page.
Attention, attention. En tout cas, j'avais noté de finir sur les mots de Reine Pratt. Cher Reine Pratt, dont nous avons un épisode du podcast sur son livre « Exploser le plafond ».
Donc, qu'il faut aussi acheter.
Qu'il faut aussi acheter. Et qui, voilà, qui fait aussi du bien parce que, bah, elle n'a pas notre âge, Reine Pratt. Donc, elle a vu beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ses premières actions, c'est quand même 2006 sur les rapports sur les inégalités femmes-hommes dans la culture. Et donc, elle termine comme ça. Ainsi, nous savons qu'il n'y a pas à attendre de l'État qu'il protège ses citoyennes, ni du ministère de la Culture qu'il se donne les moyens de l'efficacité en matière d'égalité et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il nous revient de l'exiger. Guérilla Girls. Merci Elvire, merci Rose.
Merci.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Rose Lamy et d'Elvire Duvel-Charles à l'occasion de la parution du livre collectif « Moi aussi, MeToo au-delà du hashtag » aux éditions JC Lattès. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Avec La Franchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.